réglementé officiellement en 1945-1946 dans la grande loi qui nationalise les quatre vieilles, Crédit Lyonnais, Société Générale, Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, et BNCI et Comptoir National d'Escompte de Paris, parce que ce sont des banques de détail et qui permet d'échapper à la nationalisation aux banques qui se spécialisent dans les banques d'affaires, et c'est le cas de Paribas. Par exemple, Paribas, à l'époque, se débarrasse des quelques petites activités de banque de détail qu'elle avait pour s'afficher banque d'affaires et donc ne pas être nationalisée. Et puis, vous avez une autre distinction entre les banques qui sont centralisées, comme la Société Générale ou le Crédit Lyonnais, ou enfin les quatre vieilles d'ailleurs, et puis des banques qui ont des structures plus fédératives, comme par exemple le Crédit Agricole, qui est une sorte de fédération de caisses régionales de Crédit Agricole. Et on ne peut pas dire qu'il y ait une décentralisation, c'était des diverses banques qui étaient fédérées sous un même chapeau Crédit Agricole. Vous avez la même chose dans la Caisse d'Épargne, et puis vous avez d'autres banques, je crois le Crédit Industriel et Commercial a dû être longtemps une banque avec beaucoup d'autonomie locale. Et puis vous avez tout un secteur mutualiste, le Crédit Mutuel et le Crédit Coopératif et d'autres. Ça énerve beaucoup les banquiers au sens classique du terme quand on dit que ces banques-là sont des banques parce qu'elles ont des privilèges, elles font un métier un peu différent, elles n'ont pas les mêmes contraintes. Mais bon. Donc vous voyez, le monde bancaire est assez vaste et il faudrait des livres et des livres pour décrire la façon dont chacune de ces familles de banques s'est informatisée en fonction de son organisation. Car il y a ça va être un petit peu une trame de mon exposé, il y a une relation profonde entre l'organisation et l'informatisation. Et puis en dernier lieu, comme je l'évoquais tout à l'heure, les banques sont un grand sujet parce que c'est une grande puissance. C'est une grande puissance qui est capable d'influencer la réglementation, qui est capable d'obtenir un changement dans la législation et la réglementation du secteur bancaire, des moyens de paiement, des relations entre les clients et les banques et entre les banques. Et c'est une grande puissance aussi, puisque les banques ont évidemment une influence sur l'économie. Donc je vais passer rapidement sur ce premier aspect, influence des banques sur l'économie. Vis-à-vis des entrepreneurs et des entreprises, les banques jouent le rôle qu'elles jouent vis-à-vis de tout secteur économique, en matière de trésorerie, en ayant les comptes bancaires, les dépôts de ces entreprises, en assurant éventuellement la paye des salariés, mais aussi en faisant des prêts à court, moyen et long terme, et dans le cas des banques d'affaires, en investissant du capital, en faisant des prises de capital dans ces entreprises et au-delà en participant aux emprunts et aux émissions de capital et aux émissions d'actions et d'obligations. Et ayant cette entrée dans les entreprises et souvent un siège au conseil d'administration et plus largement en jouant sur les réseaux de relations des dirigeants bancaires, les banques peuvent imprimer une stratégie, peuvent influencer la stratégie des entreprises et éventuellement leur imposer une stratégie, notamment à travers ce qu'on appelait les grandes manœuvres industrielles, les opérations de fusion-absorption, de restructuration. Alors, je vais brièvement évoquer cela dans deux secteurs, l'industrie du matériel, des matériels de traitement de l'information, et l'industrie, et plus tard l'industrie des services informatiques. Alors l'industrie du traitement de l'information, elle est née au 19e siècle avec des inventeurs qui ont commencé à marier des machines à calculer avec des machines à écrire. Ça a donné les premières machines comptables. Je vous renvoie à l'excellent exposé que nous a fait Guyot durant deux séances précédentes. Il a un petit peu préparé, enfin, il vous a expliqué beaucoup mieux que je ne saurais le faire les techniques et les logiques d'usage de ces machines. Donc on trouve des inventeurs qui, pour toutes sortes de raisons, développent des machines de traitement de l'information. On trouve un peu plus tard, dans les années 1880, Hermann Olrit, qui lui travaille pour, qui lui développe des machines à cartes perforées pour le recensement américain, puis pour les recensements en Europe, et puis vers 1920, Frédéric Rosenbuhl qui développe une tabulatrice à cartes perforées pour son employeur, qui est une compagnie d'assurance norvégienne. Mais vous avez aussi des gens qui ciblent directement la banque comme marché pour des machines. C'est le cas par exemple de Burroughs. Burroughs est un employé de banque dans les années 1860 qui développe une machine mécanique, une additionneuse, une calculatrice pour faire de la comptabilité bancaire, de la comptabilité élémentaire, pour, essentiellement pour produire des relevés de compte et des pièces comptables. Et puis, si on fait des bonds en avant, bon, les banques investissent bon, aux États-Unis bien sûr, chez Burroughs, mais elles investissent en France, par exemple, en 1920, dans la création de la MAP, dans la reconversion de la MAP, Manufacture d'Armes de Paris, qui devient un grand fabricant, c'est à Saint-Denis, je crois, un grand fabricant de machines à écrire et de machines comptables. Et puis, alors quid des machines à cartes perforées? Les machines à cartes perforées, à cette époque, jusqu'aux années 20, sont des machines statistiques. Si vous regardez par exemple les premières publicités de Bull, compagnie des machines Bull, machine à statistiques. Et puis dans les années 30, on voit apparaître dans la raison sociale, machine à statistiques et de comptabilité. Et ça reflète une réalité technique et commerciale. Parce que les fabricants de machines à cartes perforées ont entrepris de conquérir le marché bancaire en développant, en ajoutant des dispositifs ad hoc à leur tabulatrice à cartes perforées. Une banque ne peut pas se satisfaire d'une machine purement statistique qui ne sait faire qu'additionner. Une banque a besoin au moins de machines capables de soustraire, hein, malheureusement pour nous qui recevons nos comptes les mauvais jours ou les mauvais mois. Une banque a même autant que possible besoin de